Les recettes du réel. À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Etienne.
Bonjour à toutes et à tous. Lors du dernier épisode des recettes du réel datant du 24 avril, je vous avais proposé d'aborder le thème de l'enregistrement sonore et comment l'humain a réussi au cours du temps de retranscrire et réécouter le son à partir de supports physiques. J'avais évoqué en première partie de cet épisode les premiers enregistrements réalisés par le français Scott de Martinville en 1860 au travers du phonotographe, dont le principe consistait à graver les vibrations de la voix sur de la soie de sanglier. Puis je vous avais parlé ensuite de Thomas Edison et Emil Berliner qui, en 1877 et 1886, ont tous deux révolutionné la manière dont on enregistrait le son grâce à leurs inventions respectives, le phonographe et le gramophone. Thomas Edison avait mis en place un système de rotation qui, à l'aide d'un stylet et d'un cylindre de cire ou d'étain, permettait de graver les vibrations sonores perçues au fur et à mesure que le cylindre tournait sur lui-même à la manière d'une broche à kebab. Quant à l'inventeur allemand Emil Berliner, il avait préféré une gravure sur des supports plus petits et beaucoup plus reproductibles pour l'enregistrement commercial, et il donnera naissance au premier disque de l'histoire. Dans la suite de cette chronique, je vais vous parler rapidement d'une autre méthode d'enregistrement qui a su également se faire une place dans la révolution technologique du XXe siècle, et qui n'est d'autre que la cassette audio. Et enfin, je vous ai réservé une surprise pour cette chronique un peu spéciale, parce que vous aurez l'occasion d'écouter mon entrevue avec l'artiste et youtubeur Feldup lors de sa venue à Nantes le jeudi 25 avril, et qui nous aiguillera sur ce nouveau phénomène de l'enregistrement musical né d'internet qu'est la Lost Wave. Mais d'abord, intéressons-nous à la question suivante. Ça marche comment une cassette audio ? Lorsque l'on parle de cassette audio, on parle surtout de la bande magnétique qui s'enroule et se déroule à l'intérieur de celle-ci. La bande magnétique était à l'origine destinée exclusivement pour la captation du son. L'enregistrement par bande magnétique a été développé pour la première fois en Allemagne de 1928, dans un contexte de tensions politiques et diplomatiques. À cette époque, les conflits émergents entre l'Allemagne nazie et les pays de l'Alliance ont fait naître dans la tête des grands acteurs de la Seconde Guerre mondiale le besoin absolu de pouvoir enregistrer le son et de le rediffuser ultérieurement. La course de la supériorité technologique était lancée, et ce fut l'Allemand Fritz Pflaumer qui inventera le premier enregistrement par bande magnétique en s'inspirant du télégraphon, qui permettait d'enregistrer le son à partir d'un fil d'acier enroulé autour d'un cylindre. La première bande réalisée était en acier, et elle était recouverte d'une fine couche de cristaux d'oxyde de fer. Ces cristaux avaient l'apparence de minuscules aiguilles orientées dans le sens de la longueur de la bande. Compte tenu des propriétés magnétiques du fer, cette invention fait intervenir l'électromagnétisme dans la captation sonore. C'est-à-dire que ces petites aiguilles en fer sont en réalité de vrais aimants à taille microscopique, capables de s'orienter lorsqu'elles sont sujettes à un champ magnétique. Suite au passage d'un champ magnétique, ces aiguilles gardent leur orientation, on parle alors de rémanence magnétique, et qui permettra alors de garder une trace de l'enregistrement que l'on pourra réécouter. Les premiers enregistreurs magnétiques avaient donc un fonctionnement assez simple. Lorsque l'on déclenche l'enregistrement, la bande s'enroule et un courant électrique provenant d'un microphone circule le long de bobine dans une petite tête d'enregistrement. On appelle ce composant électroaimant ou tête inductive. Au fur et à mesure que la bande magnétique s'enroule, l'électroaimant va produire un champ magnétique et aimanter les cristaux d'oxyde de fer déposés sur la bande. L'enregistrement est réalisé, pour le réécouter, il suffira d'effectuer le même processus. On redéroule la bande, mais cette fois-ci les bobines de la tête d'enregistrement vont être impactées par l'aimantation de la bande, et générer un courant électrique qui va venir alimenter un microphone, et reproduire le son enregistré. Bien entendu, la technologie du début du 19e siècle était assez rudimentaire, et les enregistreurs étaient assez volumineux. Il faudra attendre les années 1950 pour que la bande en acier soit remplacée par du plastique, et que ces bandes soient placées dans des cassettes au format de poche. Aujourd'hui, les avancées technologiques ont permis d'améliorer la qualité de l'enregistrement sonore, et de proposer des formats beaucoup plus abordables. Et pourtant, une nouvelle tendance est née depuis 2020 sur Internet, poussant de nombreux internautes à se tourner vers des musiques anciennes et distordues par le temps. Je vous laisse donc avec Feldup pour la suite de ce podcast. Bonjour Feldup, est-ce que tu vas bien ?
Oui.
Alors donc tu es ici dans un contexte particulier puisque tu es en tournée dans toute la France dans le cadre de la sortie de ton dernier album nommé Stared At From A Distance que tu as réalisé en novembre 2023. Un album que beaucoup qualifient de rock indé intense et émotionnellement chargé. On compare souvent ton expression musicale à celle de Radiohead. Mais toi, comment tu qualifierais ton style de musique à nos auditeurs qui te découvrent aujourd'hui ?
C'est un style qui est très introspectif, un peu lo-fi, donc enregistré avec les moyens du bord, hein, c'est entièrement autoproduit. Donc oui, en effet, Radiohead, c'est une grosse influence. J'ai envie de ramener un côté un peu slacker, un peu distordu et très brut. Et c'est aussi un album très personnel, ouais, donc je trouve que le côté très sous-mixé, très brut du son marchait bien. Ouais.
Et parce que ça fait pas longtemps que tu as commencé cette carrière musicale finalement ?
La carrière musicale en soi, je compose depuis que je peux toucher des instruments de musique, donc depuis très longtemps. Mais la partie concert en live, il n'y a pas eu le moment où on fait des petits concerts dans des bars, etc. Il y en a eu très très peu. On est passé d'un coup de jouer devant zéro personne à 400.
Alors Feldop, tu es musicien, mais pas que. En parallèle de ta carrière musicale, tu réalises de nombreuses vidéos sur YouTube. Ce que tu abordes dans tes vidéos, ce sont principalement des mystères, des faits divers et des légendes urbaines nées d'Internet. Quelles ont donc été les motivations pour te lancer sur ce genre de contenu ?
Il faut savoir que j'ai toujours été intéressé par ce qui est mystérieux. J'ai toujours trouvé que la frustration du mystère, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et très vite, moi, quand j'étais jeune, j'ai été très vite exposé à pas mal de trucs. Tout ça, ça a créé un univers de l'horreur, de ce à quoi doivent ressembler les choses qui me font peur. Et lentement, ça a arrêté de me faire peur et ça a commencé à me fasciner, notamment quand j'ai découvert les creepypastas vers 2012-2013, des légendes urbaines qui se partageaient beaucoup sur Internet, écrites parfois un peu avec les pieds, mais qui avaient quand même un charme de fou furieux. C'est en les lisant donc en vidéo que j'ai commencé à rentrer dans ces sujets-là. Et lentement, juste l'étrange d'Internet a commencé de plus en plus à prendre de la place.
Alors Feldup, si je suis devant toi aujourd'hui, c'est d'abord pour présenter ton expression musicale aux auditeurs de Sun, mais aussi de faire le lien avec le thème de la chronique scientifique de ce mois-ci. Est-ce que par curiosité, tu sais un peu comment on en est arrivé à enregistrer des sons sur un CD ou une cassette audio ?
Je pense que ça part du parlophone et de gens qui essayent de transformer donc ces variations de pression de l'air, qui essayent de la marquer sur un support physique, donc je crois qu'avant c'était sur des bobines, et qui ensuite étaient relues à travers un système ingénieux, je crois, d'aiguilles.
Oui, t'es très proche de ça, puisque les premiers appareils pour enregistrer de la musique, ça a été des graveurs, ça a été des stylets qui marquaient le papier d'un premier temps, ou de la soie de sanglier, jusqu'à des cylindres de cire et d'étain. Si je suis face à toi aujourd'hui, c'est parce que ta dernière vidéo parue le 30 mars 2024 recoupe notre thème d'aujourd'hui. Tu parles dans cette vidéo d'un phénomène qui a poussé de nombreux internautes à entamer des enquêtes pour retrouver l'origine d'enregistrements inconnus et perdus dans la nature. Tout viendrait de la publication d'un utilisateur sur un site nommé What's That Song, qui cherchait à savoir si quelqu'un reconnaîtrait l'origine d'un extrait musical qu'il avait retrouvé sur un CD en fouillant dans son grenier. Et aujourd'hui, soit 3 ans après la publication, l'origine reste introuvable. Déjà, ma première question, pourquoi avoir voulu se pencher sur ce mystère ?
Alors moi j'ai voulu me pencher sur ce mystère parce que depuis très longtemps je suis intéressé sur un sujet un peu plus large qu'on appelle les lost media. C'est tous les efforts de plusieurs personnes de retrouver des médias, donc des films, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des images, parfois des photographies qui ont disparu. Et il y a plusieurs raisons à pourquoi les gens font ça et pourquoi ça intéresse les gens. Déjà il y a un côté un peu pourquoi on n'arrive pas à le trouver. Il y a aussi un peu un challenge, un côté Internet, on nous a dit tout le temps qu'on pouvait tout y trouver. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver certaines choses ? Et il y a aussi en fait beaucoup de gens qui sont intéressés par la nature un peu archivage, où des gens veulent absolument préserver la culture.
Petite précision pour le morceau perdu, il s'agit de cet extrait. Et ce qui est incroyable, c'est que le morceau perdu a été retrouvé le 28 avril, soit 3 jours après l'interview. Le titre s'appelle Ulterior Motives et a été composé par Christopher Booth en 1986.
Moi, je me suis penché sur ce sujet donc parce que j'étais intéressé par les lost media. Et ça, c'est un type de lost media particulier où on possède un extrait. Du coup, on a vraiment une promesse de quelque chose. Et j'ai vu que l'enregistrement lui-même était très distordu, très crade. Et je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant. Est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'on cherche ?
Oui, c'est ce qui est fou, c'est de constater que la majorité des enregistrements perdus sont des échantillons retrouvés sur des vieilles cassettes, des vinyles oubliés ou même des CD échangés de main en main et dont on a perdu la trace. Ce sont en majorité des morceaux composés entre les années 60 et 90, à une période avant le numérique où nous n'avions pas les mêmes avancées technologiques qu'aujourd'hui. Donc on peut y entendre des reliquats, des craquements de bruit et des tiraillements. Beaucoup d'internautes ont d'ailleurs pris du plaisir à écouter ces vieux enregistrements, et c'est ce qui a contribué à faire naître un nouveau genre de musique appelé la Lost Wave. Pour nos auditeurs qui découvrent ce terme aujourd'hui, comment définirais-tu la Lost Wave ?
La Lost Wave, c'est le son de morceaux obscurs qui ont été oubliés. Et qui ont donc des marques du temps qui s'expriment à l'intérieur de l'enregistrement, que ce soit donc par des imperfections dues à un CD qui s'est cassé, que ce soit une cassette qui s'est abîmée avec le temps, une bande qui s'est un peu démagnétisée, que ce soit un fichier MP3 qui s'est compressé puis recompressé après avoir été reposté en boucle sur Internet. C'est donc un genre musical qui s'exprime à travers ça. Et c'est également un genre musical qui est composé souvent de très petits morceaux de musique, parce qu'en général, la chose qu'on a, c'est uniquement un extrait la plupart du temps, et c'est juste l'auteur qui manque et le morceau entier. C'est comme ça qu'on pourrait définir la Lost Wave.
Donc dans ta vidéo, tu as toi-même eu l'occasion d'expérimenter et d'en apprendre plus sur la manière dont on enregistre le son, car tu nous racontes que tu avais trouvé une vieille cassette audio dans un bois près de chez toi, et tu t'étais donné le défi de la refaire fonctionner pour voir ce qu'elle renfermait. Alors, spoiler, ça a fonctionné pour un court instant, mais ce qui nous intéresse, c'est que tu nous expliques ta démarche. Comment as-tu fait pour entendre la musique à partir d'une cassette en état de bord d'usage ?
En gros, on avait une bande affreuse, remplie de terre, avec des fourmis à l'intérieur. C'était un cauchemar complètement horrible et rouillé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a compris que le support de la cassette était le problème, elle était craquelée. Du coup, on a cherché donc des manuels pour essayer de voir comment fonctionnait une cassette et comment la plupart des cassettes étaient organisées. On a retiré la bande, on a pris une autre cassette qu'on avait trouvée par miracle qui était intacte. On a enlevé la bobine et on a échangé les bobines concrètement. On l'a retrouvée entre temps, on sait où est la cassette maintenant, mais on aimerait bien l'écouter un peu plus et la donner à quelqu'un qui saurait faire mieux que nous.
Mais du coup, pour la réassembler, tu as dû te renseigner un petit peu plus sur comment ça marche, la bande magnétique d'une cassette, pour pouvoir la reconstituer.
C'était plutôt sur la manière dont c'est organisé l'intérieur, où est-ce qu'on doit mettre les choses. J'ai pu voir un endroit où il y a le capteur qui passe, mais sinon, c'est abstrait pour moi, quoi.
Walk this way. Finalement, la Lost Wave, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Dans la première partie de ma chronique, j'ai parlé de l'inventeur Scott de Martinville, un Français qui, en 1860, avait réussi à retranscrire graphiquement le son à partir d'une machine appelée phonautographe. On pouvait capter le son, mais nous ne pouvions pas le lire à l'époque, et donc la musique avait été perdue. C'est récemment que les scientifiques ont pu régénérer le son et le rendre public. Est-ce que cela rentrerait dans le genre que tu définis Lost Wave ?
Je pense pas que ce serait de la Lost Wave, ce serait plutôt du Lost Media. La Lost Wave, l'élément qui est important, c'est que justement on possède un enregistrement qu'on peut entendre, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il est complet et on ne sait pas qui l'a fait. Là, c'est plutôt du Lost Media, c'est quelque chose qui est perdu, qu'on ne peut pas écouter, auquel on aimerait avoir accès. La différence entre les deux, c'est que dans le Lost Media, le média est pas disponible, mais on sait qui l'a fait et on sait d'où il vient. La Lost Wave, le média est disponible, mais on ne sait pas d'où il vient. On ne sait même pas encore s'il est entièrement disponible en réalité.
Tu livres un message très émouvant à la fin de ta vidéo. Selon toi, la Lost Wave, c'est des œuvres qui s'expriment dans un vide inidentifiable, des morceaux dont l'auditeur choisit l'identité, des morceaux qui tentent de résister au temps, à l'oubli, et qui donnent l'impression qu'ils proviennent d'une autre dimension où les choses sont mieux. Est-ce que c'est une philosophie que tu partages aussi, et est-ce que c'est quelque chose que l'on peut ressentir à travers ta musique ?
Je dirais ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sentiments très nostalgiques, un peu douloureux étonnamment, associés à cette musique, alors que souvent c'est des musiques très positives. Et en fait, les gens y voient un reflet en effet de... C'est un mal très fort de vouloir revenir à un passé qu'on n'a pas connu, un autre endroit où ça va beaucoup mieux. Et il y a aussi un peu un vide qui arrive très vite, parce qu'on sent aussi un peu de tristesse, l'envie de rejoindre le monde où ces choses sont là. Je trouve qu'aujourd'hui, l'art est indissociable du concept d'artiste et je trouve que c'est souvent une erreur. C'est important de savoir qui est l'artiste. Par contre, je trouve que le point de vue de l'artiste sur son œuvre, son interprétation d'une œuvre, prend trop de place aujourd'hui et laisse peu de place à la mort de l'auteur. Et là, c'est des morceaux, donc du coup, où il n'y a que la perception des gens qui est importante. Par exemple, le morceau dont je parle dans ma vidéo, encore aujourd'hui, personne ne sait quelles sont les paroles exactes. Les gens ne sont vraiment pas sûrs de ce que c'est concrètement. Je sais pas si ma musique a vraiment beaucoup de similitudes avec cet élément de la Lost Wave. Je trouve justement que c'est des morceaux qui essayent d'exorciser un passé difficile pour espérer un meilleur futur. C'est justement des morceaux qui souffrent du présent et qui espèrent un autre endroit. Et en soi, la Lost Wave idéalise un passé qu'elle connaît pas et l'assimile à un endroit très différent.
Avant de nous quitter, tu peux nous parler un peu de tes projets futurs au niveau de ton groupe, de ta tournée ?
On a plein de dates de concerts qui arrivent, hein. Ça se remplit là, notamment le 28 mai, on a la laiterie à Strasbourg. Niveau projet futur, moi juste je vais continuer de faire de la musique, cette fois-ci peut-être composer avec mon groupe, et aussi surtout continuer à faire des vidéos, en fait continuer à faire ce que j'ai envie de faire tant que les gens me le laissent le faire.
En tout cas, n'hésitez pas à aller écouter le dernier album de Feldup intitulé Stare That From a Distance et à vous abonner à sa chaîne YouTube. Vous pourrez réécouter cette interview en replay de cette chronique et en version intégrale sur le site et l'appli de Sun. Je vous laisse avec le titre Waters de Feldup, sorti en septembre 2023. Et je vous retrouve très bientôt sur Sun, le son unique pour une autre recette.
Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.
Like a drone.